Eh bien, bonjour. J'aimerais commencer ce matin avec quelques remarques préliminaires, c'est-à-dire avant d'examiner deux passages des Écritures et avant de réfléchir un petit peu exactement ce que nous pouvons faire, j'aimerais commencer avec quelques réflexions préliminaires. Numéro 1. Je ne voudrais vraiment pas donner l'impression que si nous adoptons une telle et telle méthode, nous aurons des résultats magnifiques. Le missionnaire Samuel Zweymer a travaillé parmi les Arabes à travers 40 ans. Il a vu 8 conversions et 5 parmi les 8 ont été tués. Est-ce qu'il était une grande faillite? Comment évaluer ces choses? En 1900, il n'y avait presque pas de chrétiens au Japon ni en Corée. Maintenant, en Corée, aujourd'hui, au sud, presque un tiers de la population est chrétienne. Au Japon, les résultats sont encore si petits, c'est un peu décourageant. Qui aurait pu prédire d'avance ces différences de deux pays qui sont à plusieurs reprises assez semblables? Donc, il y a 3 jours, quand j'ai mentionné Tim Keller à New York, qui a commencé, par la grâce de Dieu, une petite église presbytérienne il y a 27 ans, 28 ans maintenant, avec 35 personnes. Maintenant, c'est une église de 4000. Et il a aussi planté un autre 25 ou 30 d'églises dans la région de New York City. Il dirige maintenant tout un système de planter des églises urbaines à travers l'Amérique du Nord, avec peut-être 200 églises plantées. La raison pour laquelle je l'ai mentionné, ce n'était pas parce que je voulais donner l'impression que, pourvu que vous suiviez les principes de Keller, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. La seule raison pour laquelle je l'ai mentionné, c'était parce que je voulais démontrer que les mêmes caractéristiques positives de l'Église émergente, on trouve aussi dans des personnes comme Keller, sans les fautes, sans les erreurs théologiques, sans les portions de leur vision qui sont franchement aveugles, c'est-à-dire les caractéristiques positives de l'Église émergente ne s'appartiennent pas seulement à l'Église émergente. On voit ces mêmes caractéristiques positives ailleurs, s'y inclut chez Keller et bien d'autres. J'ai donné 7 exemples parce que je le connais assez bien. Il y a des différences de dons. Il y a des personnes qui sont appelées d'être évangélistes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas besoin d'évangéliser. La commission de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28 est donnée à tout chrétien. Mais il y a des personnes qui sont plus douées qu'autres. Hein? Ce n'est pas tout simplement une question de méthode. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, je visite bien des pays, je suis assez moi-même accoutumé à de petites églises. J'ai été élevé au Québec. À partir à peu près de 1875 et dans les décennies suivantes, il y avait une mission qu'on appelait la mission Grande Ligne, qui a planté à peu près 70 églises au Québec. Mais dans le temps, à cause des lois québécoises, c'était impossible d'avoir une église de la deuxième génération. C'est-à-dire, quand une famille autrefois catholique devenait évangélique, selon les lois du temps, cette famille devait envoyer leurs enfants dans les écoles protestantes, qui voulait dire dans le temps anglaise. Donc, ces enfants se mariaient avec d'autres Anglais et Donc, ils ont assisté aux églises anglaises. Et donc, il n'y avait jamais une église de la deuxième génération française au Québec. Et ensuite, le libéralisme a touché les églises de la grande ligne. Et vers l'année 1930-1935, il n'y avait que 5 ou 6 églises qui restaient de cette mission de la grande ligne. Seulement 5 ou 6, dans une population de 6,5 millions à peu près. C'est deux hommes de l'étranger qui ont fait partir l'œuvre de nouveau. Un Suisse, William Frey, et mon père. Mon père était Irlandais, il ne savait pas un mot de français, mais il a pris un pastorat à Verdun, à Montréal, un pastorat d'une église anglaise pour apprendre le français. Et après 5 ans, donc, il a commencé une église française à Montréal vers 1935. Donc, jusqu'à 1972, il n'y avait pas plus que 35 ou 36 assemblées à travers cette population, une population à peu près de 6,5 millions. Et le numéro de chrétiens dans chaque assemblée était peut-être 30. Une grande assemblée avait un dimanche matin 60 personnes, mais il n'y avait pas plus que 3 ou 4 assemblées comme cela. C'était tous des baptistes ou des frères chrétiens, il n'y avait pas d'autres. Et les ministres baptistes seuls, entre l'année 1950 et 1952, ont passé 8 ans en prison au Québec. Et nous, les enfants, on était battus de temps en temps parce que nous étions les maudits protestants. Ensuite, entre 1972 et 1980, 8 ans, nos assemblées ont multiplié de 35 ou 36 jusqu'à presque 500 dans 8 ans. Mais en 1972, mon père avait déjà 61 ans. Il avait passé tout son ministère dans des petites églises qui étaient assez méprisées, faibles, sans leader, après tout. Donc, je suis pas mal accoutumé à des petites églises. Et je peux me trouver en Corée, dans une assemblée de 30 000 personnes. 4 réunions le dimanche matin de 5 500 personnes chacune. Oui. Mais je peux me trouver aussi dans des places comme Kyrgyzstan, où j'étais il y a 2 semaines. C'est un monde musulman, et l'œuvre de l'Éternel semble aller assez lentement dans ces quartiers au moment présent. Donc, il ne faut pas penser que si on adopte une telle et telle méthode, qui, par la grâce de Dieu, a donné de grands résultats ailleurs, donc nécessairement, Dieu va bénir l'œuvre ici, dans le monde francophone, de la même façon. Après tout, les résultats se dépendent de Dieu, et les dons que Dieu donne, les circonstances différentes, on ne peut pas garantir certains résultats parce que nous adoptons une telle et telle méthode. Il faut dire ça et le redire et le redire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre d'autres personnes qui ont vu de bons résultats ici et là, mais quand même, il ne faut pas se fier à nos méthodes. Deuxièmement, je ne voudrais jamais minimiser l'importance de la gentillesse, de l'amour, d'un cœur d'un serviteur, service, valeur d'amitié. Il y a des personnes quand même qui donnent l'impression que pourvu que nous vivions véritablement comme des chrétiens devraient vivre, voilà l'évangélisation. Ils se trompent. Parce que l'évangélisation, c'est toujours l'annonce de l'Évangile. Maintenant, nous devons vivre sous l'autorité et la puissance, le pouvoir de l'Évangile, Mais même si des personnes savent que nous sommes chrétiens et ils apprécient que nous vivons d'une telle et telle façon parce que nous sommes chrétiens, cela ne leur donne pas ce que c'est l'Évangile. Cela ne donne pas le Christ sur la croix, ce que c'est le péché, comment être pardonné, comment être réconcilié à Dieu. Ça prend toujours une annonce. Il n'y a pas de manière d'échapper cette responsabilité. Mais quand même, comme j'ai dit, je ne voudrais pas minimiser l'importance de la gentillesse, de l'amitié, d'une attitude de service. Il y a des chrétiens qui sont tellement séparés que franchement, ils n'ont pas d'amis non chrétiens. Si les seules personnes que vous connaissez sont d'autres chrétiens ou des personnes qui donnaient profession de foi au moins, mais vous ne connaissez vraiment pas d'un sens personnel et intime des non-chrétiens, vous n'avez pas la structure, les relations qui mènent vers le témoignage. Troisièmement, je ne veux pas non plus tout simplement vous donner une esquisse d'une seule méthode, surtout parce que ces méthodes, les méthodes que je connais, d'une façon assez intime, sont tirées tous du monde anglais, le monde anglophone. Et quand même, assez souvent, ces méthodes ne sont pas exactement transférables. Par exemple, une méthode que je donne à mes étudiants était développée en Australie, Two Ways to Live, deux façons à vivre. Je l'apprécie, je l'ai adaptée moi-même. Il y a une autre méthode qu'on appelle Life at Large. Mais ce n'est pas exactement une méthode qui m'intéresse. C'est plutôt une approche. Mais en plus, je dirais que pourvu que vous aimiez véritablement l'Évangile, et pourvu que vous aimiez véritablement vos voisins païens, l'amour va trouver un chemin. Il y a des choses à apprendre, oui, il y a des choses à apprendre. Et c'est pour cette raison que nous passons 2 heures, 3 heures sur cette question aujourd'hui. Mais pourvu que vous aimiez véritablement Jésus-Christ et son Évangile, vous voyez l'importance de l'Évangile pour toute l'éternité, et pourvu que vous aimiez aussi, à la fois, vos voisins, vous allez trouver un chemin. Souvent, la seule raison pour laquelle nous ne témoignons pas, ou nous n'essayons pas d'évangéliser, c'est parce que, soit, en réalité, nous ne pensons pas que l'Évangile est si important que cela, ou nous l'acceptons d'un sens théorique, mais en réalité, c'est plus important de faire beaucoup d'argent ou que le monde pense bien de nous, quoi que ce soit. Ou, autrement, nous pensons que l'Évangile est important, mais franchement, nos voisins sont tellement païens que s'ils vont à l'enfer, hein, c'est leur faute après tout. Il n'y a pas de larmes, pas d'amour. Si nous aimons les personnes autour de nous et si nous croyons véritablement en l'Évangile, l'amour va trouver un chemin pour évangéliser. Je ne veux pas dire donc qu'il n'y a pas de choses à apprendre de nos méthodes, mais quand même, ce n'est pas tout simplement une question d'articuler de nouveau quelques méthodes nouvelles. Quatrièmement, l'expérience démontre assez souvent que quand on fait l'évangélisation parmi ceux qui sont illettrés, c'est-à-dire en ce qui concerne le contenu de la Bible, en général, il y a des exceptions, en général, ça prend plus de temps que quand nous faisons d'évangélisation parmi ceux qui ne sont pas convertis, mais qui sont bibliquement lettrés. C'est-à-dire, si quelqu'un, quelqu'une, est élevé dans une famille chrétienne, dans une église chrétienne, et connaît d'une façon intellectuelle le contenu de l'Évangile. Et ensuite, ces personnes se mettent en rébellion, et maintenant à l'âge de 35 ans, 38 ans, tout d'un coup, par la grâce de Dieu, ils entendent encore de nouveau l'Évangile. Et peut-être, par la puissance du Saint-Esprit, tout d'un coup, leurs yeux sont ouverts et ils voient véritablement les issues et soudainement, ils se convertissent. C'est vraiment bon, c'est remarquable, c'est la puissance de Dieu, sans doute. Mais quand même, la semence avait été semée il y a 35 ans. Mais si quelqu'un qui est complètement illettré entend l'Évangile à l'âge de 35 ans ou 38 ans, mais j'avoue encore que Dieu peut faire ce qu'il veut, et s'il veut donner un grand réveil, sans doute il peut sauver n'importe qui aussi vite qu'il veut. Je ne veux pas imposer des limites sur Dieu, mais quand même, en général, ça prend plus de temps. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Même ces mots comme Dieu et foi et justice et enfer, tous ces mots veulent dire autre chose. Ils ont des connotations associées avec ces mots qui sont anti-chrétiens. Donc ça prend plus de temps. Quand j'ai commencé, comme assez jeune homme, à faire des missions dans les universités du monde anglophone, en général, les personnes qui étaient converties dans ces missions se convertissaient par la grâce de Dieu à travers la semaine où j'étais là dans l'université. Maintenant, c'est presque jamais comme cela aujourd'hui. Presque jamais. Ce qui arrive, c'est que vers la fin de la semaine, j'invite des personnes qui s'intéressent un peu à ces choses de s'inscrire dans un cours d'évangélisation, d'explorer la Bible, un cours de 6 semaines ou 8 semaines qu'on organise après les réunions d'évangélisation. Hein? Puis moi, je quitte l'université, je retourne chez moi, j'ai d'autres choses à faire, et ensuite je reçois le courriel. Tu vas te souvenir de quelqu'un, de quelqu'une, une jeune femme de la Chine, elle vient d'être convertie et tout cela. Donc les conversions arrivent en général après la fin de la mission. C'est une autre manière de dire que ça prend plus de temps. Et probablement c'est ça qui a lieu aussi dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Les derniers versets. Nous reviendrons plus tard à ce passage à partir de verset 16, mais maintenant seulement verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, verset 34? Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Est-ce que ça veut dire, au même instant, ils se sont attachés à lui et ont cru? Probablement pas. Ce n'était pas comme ça que ça marchait dans l'Ancien Monde. Il n'y avait pas d'université dans l'Ancien Monde. Il y avait plutôt on va les appeler des professeurs qui allaient ici et là, et qui commençaient à prêcher dans les marchés, ou des fois ils louaient une maison, puis s'ils étaient intéressants et assez acceptables, les parents envoyaient leurs enfants pour qu'ils deviennent ses disciples. Ils payaient un peu de monnaie. Et puis, si ces personnes étaient vraiment fortes et bonnes et puissantes dans ce qu'ils en instruisaient, dans ce qu'ils enseignaient, donc ils pouvaient charger un peu plus d'argent. Hein. Puis s'il était vraiment bon, les frais s'augmentaient, parce que nous savons tous que les universités les plus dispendieuses sont les universités les meilleures, n'est-ce pas? Ce qu'on veut, c'est ce que les universités veulent nous enseigner, sans doute. Et donc, des personnes devenaient des disciples d'autres personnes et ensuite commençaient à adopter leur position. Je ne mentionne pas la France à cet égard, mais si on devient un étudiant pour... d'un professeur en Allemagne. Peut-être nous écrivons une thèse de troisième cycle en Allemagne. Nous devons nous soumettre à ce professeur. Nous devenons son disciple. C'est comme cela que ça marche. Si je veux être l'étudiant, le disciple, en effet, d'un tel et tel professeur à Marbourg, par exemple, ou Heidelberg, ou Tübingen, je deviens son disciple. Mais si j'écris une thèse doctorale de troisième cycle en Angleterre, à Cambridge, ou Oxford, Aberdeen, je ne deviens pas le disciple de ce professeur. Hein? Il m'encourage, il me donne du conseil, il me corrige et tout cela, mais je peux prendre une autre position et ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est un autre monde. Mais dans l'ancien monde, on devenait le disciple de quelqu'un. Ces personnes s'attachèrent, le texte dit, à Paul. Et ensuite, ils ont cru. Donc, ce qui arrive quand j'ai fait des missions aujourd'hui, il y a des personnes qui deviennent, en effet, des disciples de Don Carson. Puis les études continuent. Et ils croient. Ça prend du temps à apprendre les fondamentales de la foi, les fondamentales de ce que dit la parole de Dieu. Donc, ça prend la persévérance dans l'enseignement de la parole, une stratégie plus longtemps, pas tout simplement une méthode de 4 points ou de 6 points, puis ça finit là. Ça prend, non pas tout simplement l'amitié, mais un effort de changer la manière de penser, d'établir une autre vision du monde, comme nous allons voir. C'est ça que l'apôtre Paul essaie de faire dans Actes chapitre 17. Et quelques-uns, malgré le fait qu'il y avait des personnes qui se moquaient de lui à cause de son message, il y avait d'autres personnes qui se sont attachées à lui. Et donc, ils ont reçu plus du message. Et enfin, ils ont cru. Cinquièmement, nous avons besoin à la fois des personnes qui n'ont pas peur d'évangéliser où ils se trouvent. Chez leurs voisins, parmi les étudiants à l'université locale. Oui, 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 oui. Mais nous avons besoin aussi de personnes qui pensent d'une façon stratégique. Plusieurs maintenant entre vous m'en ont parlé de ce qui prend place à Grenoble. Et encore Mike Evans l'a mentionné de nouveau ce matin. Ce foyer d'évangélisation à Grenoble. Avec des résultats à travers les décennies qui se répand à travers le monde francophone, n'est-ce pas? Mais je suis l'étranger ici. Quand même, je me demande pourquoi nous n'avons pas essayé de multiplier cet effort à côté de chaque université en France. Pourquoi? Et en Suisse et dans le monde francophone. Après tout, les leaders de la nation sont les gradués de nos universités, en fin de compte. Et même si nous n'essayons pas tout simplement de gagner les leaders pour Christ quand même, c'est un grand champ. Le monde universitaire, c'est un grand champ de paganisme, c'est un grand champ de personnes perdues, c'est un grand champ qui n'est presque pas touché. Hein? Oui, nous rendons grâce à Dieu pour GBU et des efforts semblables, mais pourquoi pas une multiplication de foyers d'évangélisation comme nous avons à Grenoble? Pourquoi pas? Mais ça prend une vision de stratégie, de priorité. Ça prend des personnes qui évangélisent, oui, dans nos villages locaux, mais ça prend aussi des personnes avec stratégie, avec priorité. Eh bien, ce sont mes réflexions préliminaires. Et peut-être je devrais laisser quelques instants pour des questions à cet égard avant de commencer avec 1 Corinthiens chapitre 15. Quelques questions ou remarques? Pour répondre en détail à cela, ça me prendra une demi-heure. Mais pour la question de la grande ville, je dirais tout simplement, je répète ce que j'ai dit hier soir. Après tout, dans le monde paulinien, moins que 15% des personnes vivaient dans les villes. Et leur ville, eh bien, une grande ville comme Éphèse avait peut-être une corde de millions de personnes. Il n'y avait pas de ville avec 10 millions de personnes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, le monde devient un monde urbain. Donc, même si nous examinons le plus grand nombre de personnes qui sont perdues, ils se trouvent dans les villes. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les campagnes, je ne veux pas dire cela, mais quand même, on n'a pas besoin de dire qu'il faut faire cela parce que les apôtres ont fait cela. C'est même un cas d'observer où se trouve le plus grand nombre de perdus. Mais en plus, dans le temps de l'apôtre Paul et dans notre temps, les villes sont la source de toute chose dans la société. Les villes produisent les livres, les villes produisent le ciné, les villes produisent les universités, les villes produisent les journaux, les villes produisent les programmes de télévision, les villes. Donc, si nous nous intéressons seulement à des individus, eh bien, ça ne fait rien, ce que nous avons vu, pourvu qu'il y a des personnes perdues à qui nous donnons notre témoignage. Et Dieu nous appelle des fois au petit village, et je ne veux rien mépriser, mais quand même, si nous avons un intérêt à répandre la voix de l'Évangile dans les centres d'influence, il faut commencer avec les villes, soit dans le temps de l'apôtre Paul, soit dans notre temps. C'est une question, il me semble encore, d'être sage. Eh bien, ça c'est encore les remarques préliminaires, mais maintenant, quelques remarques sur 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. J'ai dit à maintes reprises à travers ces quelques journées que si nous devons parler comment évangéliser les illettrés, il faut être en accord de ce que c'est l'Évangile. Si nous allons évangéliser, il faut être en accord de ce que c'est l'Évangile. Il y a bien des manières de s'approcher de ce sujet. J'aimerais bien prendre 5 ou 6 heures sur ce sujet. Il y a des approches à définir l'Évangile et les évangéliques aussi qui sont basées sur les analyses d'anthropologie ou les analyses de l'histoire ou quoi que ce soit. Mais il me semble que si nous allons parler d'une façon fidèle à la Bible, d'évangélisation, il faut se souvenir ce que la Bible dit de ce que c'est l'Évangile. Il y a bien des passages que nous pourrions examiner, mais commençons avec 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Notez bien, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, un peu comme Galates chapitre 1, versets 8 et 9, s'il y a un autre évangile, dans d'autres termes, c'est une fausse évangile, ce n'est pas véritablement l'évangile. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, l'importance de préserver cet évangile, de comprendre ce que c'est, de ne pas changer les termes de cet évangile, devient assez important, n'est-ce pas? Autrement, même la foi que ces personnes démontrent est une foi qui est en réalité en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par les apôtres, tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Notez bien, cet évangile est christologique, c'est-à-dire c'est basé sur Christ et ce qu'il a fait. Son identité, sa mort, sa résurrection. J'ai remarqué il y a 2-3 jours que même les évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, ces évangiles n'étaient pas l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, c'était l'évangile selon Matthieu et Marc. Parce qu'il n'y avait qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et dans chaque cas, l'évangile, donc, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle qui est consommée par l'histoire, en réalité, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Sans cette histoire, il n'y a pas d'évangile. Donc, si nous essayons de dire que l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Oui, c'est une expression biblique. Mais ensuite, il y a un assez grand nombre de voix aujourd'hui qui disent, deuxièmement, oui, c'est l'évangile du royaume, et le royaume exige que nous soyons humbles, que nous soyons les serviteurs des autres, que nous guérissons les malades, que nous soyons contre l'injustice, et ainsi de suite. Nous devons prêcher, en effet, le royaume. Ils ne comprennent pas les évangiles. Ils ne comprennent pas véritablement le royaume. Oui, le royaume de Dieu avance et change les personnes, et Dieu lui-même s'intéresse à la justice et au service, c'est tout. Mais ce royaume gagne les hommes, ce royaume transforme par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, essayer de séparer l'évangile du royaume de ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ, attesté par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui dans chaque cas mène vers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas l'évangile du tout. Et Paul dit à peu près la même chose ici quand il parle, verset 3, des choses les plus importantes. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Cet évangile, donc, est christologique. Deuxièmement, cet évangile est biblique. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est remarquable que quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, la grande majorité parmi eux n'était pas juif, mais il veut quand même fonder leur croyance en Christ et ce qu'il a fait sur la croix sur les Écritures. Et ce n'est pas comme s'il y a un grand nombre de passages dans l'Ancien Testament qui disent clairement, nettement, avec des propositions très simples, le Messie va arriver et on va le mettre à mort, puis il va ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Il n'y a pas de passages comme ça. Même les passages qui annoncent sa mort et sa résurrection, en général, sont enracinés dans les formes de typologie que nous avons examinées ensemble dans les Épître aux Hébreux. Donc, ça prenait une connaissance pas mal profonde de la parole de Dieu pour comprendre comment ces Écritures fonctionnent. Mais quand même, l'apôtre Paul voulait fonder son évangile dans les Écritures. C'est pour cette raison que même quand je fais l'évangélisation dans des petits groupes ou dans les universités, je veux toujours utiliser les Écritures. Et si le monde arrive sans Bible, ça ne fait rien. J'ai toujours des Bibles davantage où j'ai photocopié, avec permission, j'ai photocopié quelques pages. Aujourd'hui, nous allons examiner les premières pages du premier livre d'entre ces 66 livres. Voici le contenu de ces trois chapitres. J'ai des copies ici. Si vous ne l'avez jamais lu, on va les lire ensemble. Hein? Puis on commence immédiatement avec ce que dit les documents fondamentaux. C'est-à-dire la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, je veux qu'il soit convaincu, pas par Don Carson, mais par les Écritures. À certains points, au début, ils ne sont pas convaincus. Ce sont des livres, ce sont les livres fondamentaux des chrétiens. Mais je ne commence pas à prouver la vérité de la Bible. Il y a une place pour l'apologétique en ce qui concerne la nature de la Bible. Oui, mais au début, ce n'est pas la place. La place, au début, c'est d'étudier le contenu de la Bible. Et un peu plus tard, quand les personnes commencent à poser des questions, eh bien, si c'est vrai, ça veut dire que oui, je ne peux pas accepter cela. Là, ça commence à être le temps d'introduire l'apologétique. Mais au début, la première chose à faire, c'est d'introduire le monde au contenu de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Je veux que l'Évangile soit fondé, enraciné dans la Bible, et que le monde voit que le christianisme, le vrai christianisme, est fondé sur des documents. Le livre, la Bible. Troisièmement, cet Évangile est historique. Christologique, biblique, historique. Vous allez vous souvenir du fait que le premier jour, j'ai mentionné que le christianisme est une révélation historique. Et j'ai fait des comparaisons avec le bouddhisme, l'hindouisme, même la religion musulmane. Et nous trouvons la même chose ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la résurrection de Jésus-Christ a été vue par des témoins, et quelques-uns de ces témoins sont nommés. Donc, nous lisons, il a été vu par ses faces, verset 5. Ensuite, par de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ensuite, il a été vu par Jacques, par tous les apôtres. Après tout, il s'est fait voir à moi. Donc, parce que c'est une religion historique, nous avons accès à ce qui a eu lieu dans l'histoire par les témoins de l'histoire. Il n'y a pas d'autre manière d'avoir d'accès à l'histoire que les témoins qui étaient là, ou les documents qui sont attachés à ces témoins. Et donc, dans, par exemple, les débats entre les musulmans et les chrétiens, les musulmans, naturellement, insistent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Même la majorité des musulmans insistent que Jésus n'est pas mort sur la croix, que les disciples ont pris et qu'il a vécu à un bon âge, caché quelque part, ou autrement qu'une autre personne a pris sa place. Mais ça, c'est une prétention historique, ça. Ça ne touche même pas ce qui est miraculeux. Ça ne touche pas la question de la résurrection. Ça, c'est une question de témoin. Est-ce que nous devons nous fier à un soi-disant témoin du 7e siècle ou des témoins, un grand nombre de témoins du 1er siècle qui étaient là? Oh oui, ils vont dire, oui, mais ça c'est la révélation donnée à Muhammad, il ne faut pas se douter de cette révélation. Et après tout, les chrétiens ont tout changé, oui. Des sources du 1er siècle ou des sources du 7e siècle, c'est une prétention historique, on ne peut pas l'éviter. Il faut être gentil, mais on ne peut pas l'éviter. Maintenant, en réalité, le Coran est un peu ambigu à ce point. Il y a deux passages dans le Coran qui semblent dire que Christ est mort. Ça dépend comment on les lit. Mais quand même, la grande majorité de musulmans dans nos chemins croient que Christ n'est pas mort sur la croix. Et ça, c'est une prétention historique. C'est-à-dire, il faut prendre garde, il faut être conscient que dans notre société, surtout la société non musulmane, mais la société séculaire, la société souvent associée en France, surtout avec la laïcité, la foi est attachée à la choix personnelle religieuse, comme nous avons vu les derniers quelques jours. Hein? Mais il faut dire à maintes reprises que pour nous, la foi est importante parce que l'objet de la foi est vrai. Donc, ce que nous encourageons, ce n'est pas tout simplement la foi, mais la foi avec quelques objets de la foi. La vraie foi, parce que l'objet de cette foi est vrai. Et cela inclut des détails historiques et des détails supra-historiques, c'est-à-dire qui sont transcendants, qu'on ne peut pas examiner tout simplement par les témoins. Ce que Dieu a fait quand Christ est mort, il est mort pour nos péchés. Cela, nous ne pouvons pas trouver seulement par des témoins. Mais quand même, nous insistons que c'est vrai, et pas tout simplement vrai pour moi, autrement, notre foi est en vain. Donc, nous revenons à maintes reprises nécessairement à la question de la vérité. Il n'y a pas besoin, et il n'y a pas possibilité d'ignorer cela et être fidèle à l'Évangile. Quatrièmement, l'Évangile est théologique. L'Évangile est théologique, c'est-à-dire, ce qui est en vue n'est pas tout simplement quelques faits, comme la mort de Jésus-Christ, ou même quelques faits miraculeux, comme la résurrection de Jésus-Christ, mais des faits qui ont accompli quelque chose vis-à-vis Dieu. Donc, verset 3 ne dit pas, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Mais nous lisons plutôt, Christ est mort pour. pour nos péchés. Croire qu'il est mort et croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, même le diable lui-même peut croire cela. Mais qu'il est mort pour nos péchés et que nous avons confiance en lui parce que sa mort était pour nos péchés, qui introduit maintenant à ce point, qu'est-ce que la croix a accompli? Pourquoi la croix? Ça nous introduit à 2 Corinthiens chapitre 5, à Romains chapitre 3 et d'autres passages que nous avons déjà survolés à travers ces quelques jours. C'est-à-dire, nous revenons à la question de péché. Péché devant Dieu. Un Dieu qui est contre nous, mais un Dieu qui est pour nous parce qu'il est un Dieu d'amour, malgré le fait que sa justice exige qu'il soit contre nous. Nous revenons à ce que la croix a accompli. Et encore une fois, nous avons passé assez de temps sur cette question à travers les derniers deux jours que je ne veux pas tout redire. Mais dans ce contexte, il faut reconnaître que mort pour nos péchés est lié à ce que ça veut dire d'être sauvé, verset 2, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Sauvé de quoi? Sauvé, en fin de compte, de la justice de Dieu. Sauvé, en fin de compte, des conséquences de notre péché, s'y inclut, dans la Bible, l'enfer, la colère de Dieu. Être condamné par Dieu, être éloigné de Dieu, sauvé. C'est-à-dire, cet évangile est théologique. Cet évangile est apostolique. Numéro 5. Cet évangile est apostolique. C'est-à-dire que ce message a été reçu par et annoncé par les premiers témoins qui étaient ordonnés par Jésus lui-même, qu'on appelle les apôtres. Il y avait d'autres témoins, par exemple les 500 qui sont mentionnés. Mais quand même, nous lisons chapitre 15, verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi qui ait vu le Christ comme un avortement, que ce soit eux, c'est-à-dire les autres apôtres qui l'ont vu. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » C'est-à-dire, le vrai évangile est lié au message apostolique. Maintenant, il faut surtout souligner au message apostolique et pas tout simplement la soi-disant succession apostolique. La raison pour laquelle cette distinction est importante, on trouve dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 8, même. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, que nous vous avons annoncé, nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, même si c'est un ange du ciel, même si c'est nous-mêmes. Donc, l'autorité ne se trouve pas, en fin de compte, dans les apôtres, mais dans le message apostolique. Et si les apôtres se trompent, ce qui est arrivé dans Galates chapitre 2, c'est le message quand même qui prend priorité. Donc, une vraie église apostolique n'est pas une église avec lien quelque part, associé avec la soi-disant succession des apôtres, mais une église qui protège et annonce le message de l'apôtre, l'évangile de l'apôtre, le témoignage des apôtres. Et finalement, cet évangile est personnel. Malgré le fait que c'est la bonne nouvelle, quelque chose annoncé en public, quand même, il faut le recevoir d'une façon personnelle. Il faut y croire, il faut être sauvé personnellement. Donc, versets 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvé. » Vous voyez, ce n'est pas tout simplement quelque chose en public, mais quelque chose qui doit changer la vie, parce que cet évangile est accepté, est cru, est reçu. Autrement, ça devient quelque chose public, oui, mais ce n'est pas personnel. Par lequel vous vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Maintenant, cette esquisse de 6 points, on le trouve aujourd'hui un peu partout. Je l'ai lu moi-même dans les écrits de John Stott. On le trouve dans les commentaires. C'est assez clair, il me semble, dans ce chapitre. Hein? Ce n'est pas quelque chose caché ou un instrument bien profond créé par Don Carson. C'est ce que le texte dit, en fin de compte. Voici l'Évangile. Et nous aurions pu choisir d'autres passages qui sont aussi clairs de ce que c'est l'Évangile. Et on aurait pu lier ces textes ensemble pour comprendre que ces choses sont bibliques. Et si nous perdons ces points centraux, nous n'avons plus l'Évangile. Évangéliser les non-littrés, les illettrés, donc, c'est de commencer avec ce que c'est l'Évangile et essayer ce que nous devons annoncer. Et après cela, on peut s'approcher de la question « comment le faire ?» Question avant la pause. Jésus a insisté que ses disciples le rencontrent en Galilée après sa résurrection. Et il n'y a pas mention ailleurs clairement de ces 500, mais il y a des indices, par exemple dans les derniers 5 versets de Matthieu, où l'impression est donnée qu'il a rencontré un assez grand nombre en Galilée. Les deux textes qui parlent clairement de son ascension, Luc 24 et Acte 1, ne mentionnent pas les 500, seulement qu'il y avait des témoins. Plus que cela, je ne peux pas dire. C'est possible, mais je ne peux pas le prouver non plus. Eh bien, la pause.